Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, Jean-Jacques Chavanne avec vous, heureux de vous retrouver pour notre émission de la Ligue des droits de l'homme. Au sommaire du jour, les violences conjugales. Du 3 septembre au 25 novembre a eu lieu à l'instigation de Marlène Schiappa le Grenelle des violences conjugales avec, en point d'orgue, la grande manifestation du 24 novembre. La Ligue des droits de l'homme n'a pas attendu le Grenelle pour défendre les droits des femmes. Elle lutte quotidiennement pour l'égalité homme-femme. Elle constate, elle dénonce les violences, les discriminations qui persistent malgré une législation française très égalitaire. La France est le cinquième pays d'Europe pour les féminicides. Pour évoquer et expliquer cette situation paradoxale, je suis accompagnée aujourd'hui par Johanna Gagneux de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Et puis avec moi, Alexa Cortinovis et Clémence Raguet. Bonjour.
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 Vous êtes responsable de l'association Putain de Guerrière. Avec Johanna, nous allons faire un état des lieux des violences conjugales en France, puis nous écouterons le témoignage de Clémence qui a été victime de ces violences. Alexa fera ensuite le point avec Clémence sur les violences conjugales dans notre département. Elle va aussi nous parler de la grande manifestation du 24 novembre, des annonces du gouvernement et des actions envisagées. À nous, Johanna, vous allez questionner nos invités. Vous souhaitez d'abord faire un point sur les violences conjugales en France.
Tout à fait, Jean-Jacques. S'il est vrai que la place des femmes en France évolue vers plus d'égalité avec les hommes via des avancées essentiellement légales ces 60 dernières années, les diverses législations n'en sont pas moins suffisantes et la place de la femme est régulièrement remise en cause dans notre société. De ce fait, les violences à l'égard des femmes restent prégnantes dans notre pays. Lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, on parle spécifiquement de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, d'agressions verbales, d'agressions sexuelles pouvant être des attouchements, des frottements, des viols, et d'agressions physiques pouvant mener à des féminicides. Pour rappel, un féminicide est un meurtre de femmes ou de filles en raison de leurs conditions féminines. Ces violences dont nous parlons ont lieu en tout lieu, au sein du domicile conjugal, familial, dans le milieu scolaire et de la formation, dans le cadre professionnel, dans l'espace public ou encore au sein d'activités politiques, associatives et même récréatives. Aujourd'hui, concernant ces violences, nous avons différentes données chiffrées précises ou estimées, les violences n'étant pas ou ne pouvant pas être toutes déclarées. Ainsi, on compte en France, et de nos jours, un quart des femmes françaises âgées de 20 à 69 ans qui déclarent être victimes d'agressions dans l'espace public. Aussi, 219 000 femmes en moyenne sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leurs anciens ou actuels partenaires intimes. Trois quarts de ces victimes déclarent avoir subi des faits répétés et 80% avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Seuls 19% de ces femmes pourront déposer plainte. Un autre chiffre, 94 000. C'est le nombre de femmes en moyenne qui, par an, sont victimes de viols et de tentatives de viols. Dans 91% de ces cas, ces agressions étaient perpétrées par une personne connue de la victime. Et dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui en est l'auteur. À cela s'ajoutent 53 000 femmes adultes victimes de mutilations sexuelles par an en France. Enfin, et pas des moindres, en 2018, 121 d'entre elles ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le 24 novembre 2019, le réseau Nous Toutes comptait 138 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. L'année n'est pas encore terminée. Ces violences sont souvent liées à l'organisation même de notre société. Les femmes sont souvent dépendantes économiquement, voire administrativement de leur conjoint. La pression sociale et économique est telle qu'un mécanisme d'enfermement se met rapidement et insidieusement en place. Les femmes concernées se retrouvent souvent très isolées et sous emprise. Clémence, merci d'avoir accepté de venir témoigner. Vous avez vous-même connu le phénomène de l'emprise et des violences conjugales. Quelle est la réalité que vous avez vécue ?
Alors, merci à vous de m'avoir invitée. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis tombée sur un homme violent. Malheureusement, ce n'est pas écrit sur son visage quand on rencontre ce type d'homme. Quand je l'ai rencontré, c'était d'abord le process qui se retrouve chez quasiment toutes les victimes. C'est que c'est le prince charmant qui arrive à nous. Hein. C'est un homme qui est bien sur tout rapport, qui se conduit bien en public, qui est prévenant, qui paraît bienveillant. Donc, du coup, on se méfie absolument pas. On s'est installé très vite ensemble. Enfin, lui est venu très vite chez moi. Au début, c'était tout beau, tout rose. Et puis, très rapidement, en fait, il y a des signes qui auraient dû me faire alerte rouge. Et du coup, ben, je lui ai trouvé des excuses plutôt que de me dire ça, c'est pas normal. Il a commencé par une jalousie excessive qu'il a justifiée par le fait que toutes les femmes qui étaient passées avant moi lui avaient été infidèles. Puis ensuite, ça a été des dénigrements. Il s'est mis à contrôler ma façon de m'habiller, les gens avec qui je pouvais sortir, mon travail, enfin, tout y est passé. Hein. Et du coup, j'ai laissé faire, mais vraiment parce que c'était insidieux et qu'on ne voit pas arriver. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que c'est terminé, donc avec le recul, j'arrive à porter une analyse dessus, ce qui n'était pas possible à ce moment-là, justement parce qu'il y a ce phénomène d'emprise et qui sont excellents dans leur communication et dans leur manipulation. Et puis sont arrivées ensuite les premières insultes, qui ne sont évidemment jamais justifiées. Hein. Il n'y a rien qui justifie qu'on parle comme ça à sa compagne. Puis ensuite, ben, les premiers coups, sachant qu'on a eu un enfant ensemble et que les premiers coups sont arrivés juste après l'accouchement. Je me rappelle la toute première fois, c'est une fois où il avait été encore trop loin, il avait été trop loin dans sa façon de vouloir tout contrôler. Dans son total contrôle absolu de absolument tout, et j'en avais assez, et du coup j'ai voulu sortir une fois que mes enfants étaient au lit juste devant ma maison pour prendre l'air, et ça, même ça, il ne l'a pas supporté. Il m'a rentré de force dans la maison, il m'a coincé le bras derrière le dos, il m'a allongé sur la table qu'on avait à manger, et en me disant maintenant tu vas faire ce que je te dis. Donc quand on en est là, on commence à prendre conscience que on est dans une situation qui devient vraiment très, très, très délicate. Et puis après, ben, ça devient une manière de vivre. Donc en fait, même quand juste quelque chose ne lui convient pas, mais vraiment d'insignifiant, j'insiste là-dessus parce que c'est toujours le cas et c'est toujours insignifiant. Des pâtes qui ne sont pas saisonnées comme il le souhaite, un t-shirt qui n'est pas étendu comme lui il l'a décidé, notre enfant qui n'est pas habillé comme lui il voulait, tout est prétexte aux cris, aux insultes et aux coups. Donc du coup, c'est sûr qu'en ayant deux enfants à ce moment-là, c'était une situation très difficile à gérer. On est sans cesse prise dans l'étau de « je dois m'en aller parce que c'est pas convenable » et en même temps « c'est le papa de mon fils, comment je vais faire pour pallier au manque et à la séparation, et en même temps ben, je dois aussi nous protéger. » Et à côté de ça, il y a tout le principe de l'emprise qui est en place. On passe du chaud au froid tout le temps. On n'arrive plus à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Au début, il y a des excuses. Après, il y en a beaucoup moins, évidemment. Mais du coup, tout ça fait qu'on est complètement paumé. Et après, il n'y a plus de répit psychologique, ce qui n'aide pas non plus à réfléchir. Et donc moi, il aura fallu que je me retrouve KO au sol de ma cuisine au petit déjeuner devant mes enfants pour me faire partir de chez moi.
Quel chemin vous avez suivi pour sortir de cette emprise ? À qui vous vous êtes adressé ? Comment la bascule s'est opérée en fait ? Comment vous avez pu changer de vie ?
À partir du jour où j'ai pris la décision de partir, j'ai déposé plainte. Donc en fait, j'ai appelé les gendarmes qui sont venus constater chez moi. Je suis allée me mettre à l'abri dans un autre département. Je suis revenue 5 jours après sur mon lieu d'habitation pour déposer ma plainte. Et après, j'ai passé 3 semaines, voilà, toujours à l'extérieur du département, dans un endroit secret. J'ai eu de la chance, j'avais des proches pour m'accueillir. Je suis passée par une association, un CIDFF. J'arrive des Hautes-Alpes, donc moi à l'époque, il n'y avait que ça pour m'aider autour de chez moi, et elles ont assuré. Hein. J'ai eu à ma disposition une psychologue, une juriste, et c'est une fois que le suivi a commencé, via les groupes de parole et l'art-thérapie, que j'ai pu mettre des mots sur mes mots internes et que j'ai pu comprendre pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi je suis allée vers ce type d'homme.
Merci de votre témoignage, Clémence. Je sais que vous revenez d'un rendez-vous pendant lequel vous avez pu récupérer certaines données concernant le département de l'Ain. Sauriez-vous nous illustrer ce type de situation avec quelques chiffres actuels ?
Tout à fait. Donc, dans l'Ain, il faut savoir qu'il y a à peu près 840 plaintes par an qui englobent toutes les violences faites sur les femmes et sur les filles. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est le même chiffre que dans le département de La Réunion, qui est souvent cité comme un département abandonné. Bon, ben, on en est au même point. Il faut savoir que dans le département de l'Ain, il y a quand même des structures qui existent, mais qu'elles sont toutes full. C'est-à-dire que demain, une femme qui veut s'en aller, elle n'aura pas forcément une place en hébergement d'urgence tout de suite. C'est très compliqué. D'où aussi la naissance de notre association. On va essayer de venir en support de tous ces manques-là. Il y a quand même des moyens qui sont faits. Il y a une déléguée départementale qui est très, très investie sur le terrain, et ça, c'est vraiment important de le souligner. Il y a à disposition des victimes 7 téléphones grave danger qui sont remis aux victimes qui sont vraiment en danger de mort par le procureur. Donc il y a quand même des choses d'établies sur le département.
Merci. Vous êtes venue avec Alexa, qui est travailleuse sociale dans le département de l'Ain et par ailleurs qui milite en faveur du droit des femmes à vos côtés. La première question que j'ai à vous poser, c'est en tant que travailleuse sociale, est-ce que vous êtes souvent confrontée à la détresse des femmes qui ont subi des violences ?
Alors oui, ça m'arrive assez régulièrement. Alors un petit peu moins maintenant parce que je travaille en psychiatrie, mais les assistantes sociales de l'hôpital général y sont régulièrement confrontées. Les assistantes sociales du département y sont régulièrement confrontées. Et dans mes anciens postes, j'y étais régulièrement confrontée, tout à fait.
Clémence citait tout à l'heure que les places sont pleines, les dispositifs sont pleins. Quel est votre constat ? Qu'est-ce que vous prioriseriez dans ce contexte ?
Le constat est exactement celui que Clémence a énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux sont en première ligne dans le système des violences conjugales, puisque c'est en général nous qui accueillons en premier lieu la parole. Elles vont régulièrement voir leur assistante sociale quand elles sont victimes de violences. Nous, on les incite déjà dans un premier temps à porter plainte. Et c'est là déjà toute la difficulté. Ensuite, effectivement, le gros souci qui est établi aujourd'hui, c'est les places en centre d'hébergement d'urgence, où on n'est pas du tout sûr qu'il y aura une place disponible tout de suite pour protéger la victime. Et donc, il nous est arrivé de trouver des places dans des hôtels un peu miteux pour des femmes victimes. Et souvent, quand on voit dans quelle situation elles se retrouvent, enfermées dans une chambre d'hôtel de 5 mètres carrés avec pas grand-chose, on a souvent le constat amer que le lendemain, elles sont reparties et elles sont retournées.
Radio B.
90 FM.
La situation est qu'effectivement, nous n'avons pas de place dédiée aux femmes victimes de violences, là, aujourd'hui, actuellement.
Dans ce contexte très local, et pour faire écho au Grenelle qui a eu lieu dernièrement et qui a fini hier, qu'est-ce que vous avez pensé des préconisations du gouvernement ? Qu'est-ce que Putain de Guerrière, l'association que vous représentez ce jour, sur quel élément elle souhaite soit appuyer, soit aller au-delà du Grenelle ?
Il y a quand même des choses positives qui sortent de ce Grenelle. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est la prise en charge des violences. Ça, on ne le fait pas assez, et qu'il n'y a qu'un centre en France qui le fait, il est à race, et que quand on prend en charge les violents, ça évite la récidive, mais surtout, ça permet de pouvoir proclamer des évictions systématiques. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui partout en France.
Vous parlez d'éviction du domicile conjugal, c'est-à-dire que les femmes restent à domicile et que c'est le violent, en tout cas le conjoint violent
exactement.
Qui est sorti du domicile.
Exactement. Et en fait, souvent, c'est les femmes qui s'en vont avec les enfants sous le bras, alors que ça ne devrait pas. À savoir que dans le département, l'éviction du conjoint violent pourrait être mise en place, par exemple sur le pays de Gex. Il y a des moyens qui sont presque prêts pour que ça soit bientôt pilote. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, par contre, dans le Grenelle, me concernant moi, dans ma casquette associative, il y a des aberrations qui sont, à mon avis, dingues. On ne peut pas nous prendre pour des imbéciles en disant qu'on a 40-50 mesures qui vont être mises en place sans mettre un euro de plus que l'année précédente. À savoir que le budget 2020 est exactement le même que celui qui a été voté en 2019. Donc il n'y aura pas plus de crédit. Mais ils nous annoncent qu'ils vont faire plus de choses. J'attends de voir, évidemment. Vous vous en doutez, j'y crois pas vraiment. Et il y a aussi quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est de dire aux victimes, maintenant, l'autorité parentale va pouvoir être enlevée ou suspendue quand il y aura eu une plainte de déposer, parce qu'un père qui a été violent ne peut pas être un bon père. C'est chouette qu'ils en prennent conscience. Par contre, c'est pas bien de mentir aux victimes, parce qu'ils disent que ça va passer par les tribunaux correctionnels. Or, les seules personnes habilitées aujourd'hui dans la loi à retirer l'autorité parentale, ce sont les juges aux affaires familiales. Même les juges des enfants saisissent les juges aux affaires familiales. Donc aucun juge en correctionnel ne pourra prendre cette décision. Donc en fait, ce qui me fait vraiment de la peine dans ce Grenelle, c'est de me dire qu'il y a des choses qui sont sorties, qui ne sont pas nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui pourraient déjà être mises en place, si on s'en donnait vraiment les moyens et qu'on mettait les financements au bout. Et il y a des annonces qui sont faites et qui vont faire croire aux victimes que ça va être simple quand elles vont partir, alors que ce n'est pas le cas.
Et c'est là l'urgence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand une femme, elle rentre dans un commissariat, il faut qu'elle puisse être protégée immédiatement. Or, sans place d'hébergement d'urgence, sans argent en plus, ce ne sera toujours pas possible. Donc c'est des petites mesurettes et de la communication. D'ailleurs, je crois que toutes les associations féministes, hier soir, étaient déjà réunies à Paris pour dire que c'était une énorme supercherie. Et c'est le cas. Donc il faut commencer par le début de la boucle. L'accueil en commissariat, la formation des magistrats, la formation des professionnels qui accueillent les victimes femmes et hommes. Et puis ensuite, le reste, quoi. Protéger immédiatement la victime. Et là, il me semble que je n'ai pas vu dans le compte-rendu des Grenelles quelque chose qui est en lien avec ça.
Merci de ce retour. Concernant cela, Putain de guerrière a réuni le 23 novembre, il y a quelques jours, un certain nombre d'acteurs associatifs, militants et politiques à Bourg-en-Bresse pour dénoncer cette situation-là en attente des réponses du Grenelle, mais aussi pour dire que ce n'est qu'un début, on ne lâchera pas. Est-ce que vous voulez revenir sur ce que vous avez pu faire à Bourg et quelles seront les prochaines étapes ?
Je pense que le premier sentiment qu'on a pu avoir samedi, après tout ce temps à préparer cette marche, c'est de la satisfaction de voir autant de monde réuni autour de la cause et de voir tous ces acteurs politiques, les associations, les syndicats présents sur le terrain. Ça veut dire que la cause, elle parle à tout le monde et qu'elle concerne tout le monde. Évidemment, on ne va pas en rester là puisque les attentes qu'on avait étaient fortes par rapport à ce Grenelle et qu'il n'en sort pas suffisamment. On va continuer de se rassembler une fois par mois pour rendre hommage aux femmes malheureusement qui meurent tous les deux jours sous les coups de leur conjoint. Et puis on va continuer d'avoir des actions comme ça fortes de mobilisation où on va demander des comptes et en partie à tous les acteurs locaux.
Et puis aussi dire que ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des anciennes femmes victimes dans la marche, il y avait des femmes victimes encore actuellement, et qu'elles se sont senties écoutées, visibles, et qu'elles sont venues nous le dire, et qu'elles nous ont dit « Ouais, ça fait du bien de voir autant de monde, et on se sent moins seul.
Oui. »
Et on a reçu sur la page de Putain de guerrière 01 un nombre de témoignages phénoménal, et c'est aussi le but, qu'elles ne se sentent plus seules, et qu'elles sachent qu'on est là pour porter leur voix et leur parole, et que c'est que le commencement. Et puis aussi dire qu'effectivement, il y avait des politiques dans la marche. On sait que, on attend des programmes et des idées et projets avec le mot femme dedans, la lutte contre les violences, l'égalité femmes-hommes, tout ça. On attend de voir ces mots apparaître dans les programmes parce que pour l'instant ils sont venus marcher mais on n'en voit pas beaucoup. On sait qui était là et on sera extrêmement vigilante par rapport à ça.
Alexa, Clémence, merci de nous avoir éclairé, donné de l'énergie, d'en communiquer autant à toutes ces femmes et ces hommes aussi parce qu'ils étaient nombreux à la marche et qui ont besoin.
Oui, on était 500.
De se sentir aussi. Soutenant dans ces situations-là. Je rends l'antenne à Jean-Jacques.
Eh bien, merci à vous toutes et surtout bravo pour votre combat. Un combat qui continue, comme vous l'avez dit. Notamment, il y aura à l'espace 1500 en Berrieux une exposition Violence faite aux femmes réalisée par l'association Solidarité Femmes Events. Cette émission se termine. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous appeler au 06 95 86 09 56, boîte mail contact@ldhbourg01.org.